Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus dans Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association est april.org, donc A-P-R-I-L.org. Alors cette semaine, pas d'émission inédite en direct, mais une compilation d'émissions déjà diffusées, avec deux chroniques et un sujet principal. Je vous souhaite une belle écoute. Alors tout de suite, nous allons passer au premier sujet, donc avec la seconde édition de la chronique de Jean-Christophe Becquet, président de l'April, chronique qui s'appelle Pépites libres. Donc dans cette chronique, Jean-Christophe nous présente une ressource ou une licence libre, texte, image, vidéo ou base de données, sélectionnée pour son intérêt soit artistique, pédagogique, insolite, utile. Et les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public. Donc la chronique du jour, Jean-Christophe, porte sur le dessin animé de Nina Palais, Copier n'est pas voler.
Oui, en effet, dans ma chronique du mois de janvier, je vous invitais à découvrir la conférence « Un faible degré d'originalité » d'Antoine Defort, dont la vidéo est disponible sous licence libre. Parmi ses sources d'inspiration, j'évoquais Nina Palais, et c'est sur elle que j'aimerais revenir aujourd'hui. Nina Palais est une artiste américaine, auteure de bandes dessinées et de dessins animés. J'ai donc choisi de vous parler d'un dessin animé de Nina Palais, « Copier n'est pas voler » ou « Copying is not theft » en anglais. Il s'agit d'une vidéo très courte, elle dure à peine une minute. De manière ludique et en chanson, Nina Palais dénonce l'amalgame entre le vol et la copie. En effet, le vol concerne des objets matériels, alors que la copie s'applique aux idées et aux œuvres de l'esprit, qui, elles, sont intangibles et immatérielles. Et c'est cette escroquerie intellectuelle que dénoncent les petits personnages de Nina Palais. Dans le code pénal français, le vol est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. C'est l'article 311.1. Donc le vol est une soustraction, c'est-à-dire qu'il prive sa victime de l'objet dérobé. Alors que pour la copie, c'est complètement différent. Copier, c'est multiplier. Je sais que le logiciel libre préserve vos libertés. Et je vous le dis. Alors nous sommes plusieurs à le savoir, sans que je sois privé de ma connaissance initiale. On voit bien qu'il n'y a pas soustraction. Les idées que je partage à travers cette chronique sont multipliées par le nombre d'auditeurs. Et en faisant le choix d'une licence libre pour ces émissions, Cause Commune encourage cette multiplication. Les héros du dessin animé de Nina Palais s'amusent à comparer le vol et la copie d'un vélo. En effet, dans leur monde immatériel, il est possible très facilement de faire des copies. Un simple coup de crayon, deux clics de souris et chacun peut en fourner une copie du vélo. Ils échappent à ce qu'on appelle la rivalité des biens matériels. C'est-à-dire le fait que chacun réalise une copie d'un objet nécessite une quantité importante de ressources et d'énergie. À l'inverse, depuis l'avènement d'Internet, la copie est grandement facilitée et son coût est devenu marginal. C'est un problème pour les défenseurs de l'ancien système, basé sur des rentes indexées sur le nombre de copies. C'est une formidable opportunité pour l'humanité. De plus en plus d'auteurs choisissent de partager leur travail sous licence libre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, copions et multiplions toutes ces pépites libres.
Alors merci Jean-Christophe. Donc ce dessin animé de Nina Palais dure à peu près une minute. Alors les références sont sur le site de l'April avec la version originale donc qui est en anglais, une version française. Il y a aussi un lien avec des versions modifiées parce que dans la Dès le départ, Nina Paley, qui a diffusé ce dessin animé sous licence, alors de mémoire, CC BY-SA, donc Creative Commons partage à l'identique, a encouragé les personnes à faire des modifications, à mettre ses propres musiques. Donc il y a un certain nombre de versions modifiées avec des musiques assez sympas. Ces petits personnages rappelleront les cartoons qu'on connaît, avec notamment les petits personnages qui ont 4 doigts au lieu de 5 doigts. Et Nina Paley, ce dessin animé date de quelle époque? Est-ce que tu te souviens?
Alors c'est relativement ancien en fait, hein, ça date de 2010, ça a 10 ans, et effectivement, comme tu l'as dit, parce que Nina Paley a choisi une licence libre, ce dessin animé a fait l'objet d'un grand nombre de reprises, d'adaptations, de traductions. D'abord, on le trouve dans un grand nombre de langues, donc on a mis le lien vers la version française, mais il y a aussi des versions en espagnol, en allemand. Il y a des adaptations avec d'autres styles de musique, et on peut aussi télécharger les paroles, la partition, voilà. Donc c'est l'intérêt de la démarche de Nina Paley, c'est que toutes les briques de sa création sont libres et qu'elle encourage effectivement la création et la réutilisation. Et du coup, ben, en 10 ans d'ancienneté de cette vidéo, il y en a eu un grand nombre.
Et c'est pas la première animation que Nina Paley a libérée, parce que en 2006 ou 2008 peut-être, elle avait distribué son dessin animé, donc beaucoup plus long, son animation Sita Sings the Blues, sous licence Creative Commons partage à l'identique. Et en plus, elle avait explicitement interdit la pose de verrous numériques, hein, les DRM qu'on a déjà évoqués dans une précédente émission. Donc Nina Paley est une personne qui vraiment milite depuis, on va dire, 2008-2010, au moins, pour un mouvement de ce qu'on peut appeler la culture libre. Et sur son site, donc ninapaley.com, on peut retrouver ces différentes productions, et en plus effectivement de ce dessin animé, donc Copier n'est pas volé, dont tu nous as parlé. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Et quel est le lien, en fait, le lien avec le logiciel libre?
Alors en fait, c'est que ces licences libres qui sont aujourd'hui utilisées pour les œuvres de Nina Paley, donc les licences Creative Commons, sont en fait les héritières des licences du logiciel libre. C'est-à-dire que le libre est né avec le logiciel libre Richard Stallman en 1984. Et en fait, avec le temps, d'autres personnes ont eu envie de libérer d'autres ressources que des logiciels et se sont mis à réfléchir à des licences adaptées à des ressources non logicielles. Donc ça a donné la licence art libre, par exemple, qu'on utilise à l'April, les licences Creative Commons, dont certaines sont considérées comme libres, d'autres licences, voilà, qui s'inspirent en fait des libertés du logiciel libre, mais pour les transposer à d'autres œuvres comme des textes, des images, des musiques, ou des films et dessins animés dans le cas de Nina Paley.
Et le principe de non-rivalité que tu as expliqué et qui est explicité dans cette vidéo, évidemment, est valable en fait pour toute œuvre de l'esprit, qui est une ressource en fait non exclusive et non rivale, c'est-à-dire que tout le monde a un libre accès à cette ressource, non exclusif, et il n'est pas possible d'en exclure quelqu'un de l'usage d'une telle ressource, sauf évidemment à recourir soit à des principes juridiques, soit à des principes techniques, comme les mesures techniques, qui des fois sont également protégées par des principes juridiques.
Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai appelé les tenants de l'ancien système, en fait, hein, qui, eux, utilisent des verrous juridiques et techniques pour lutter contre cette facilité de copie des ressources qui pose bien des problèmes à leur modèle économique archaïque.
Exactement. Et pour finir, je te laisserai le mot de conclusion, ça explique aussi pourquoi nous refusons le terme de propriété intellectuelle, pour deux raisons principales. C'est que déjà, le terme propriété intellectuelle laisserait supposer en fait qu'on peut réfléchir aux œuvres de l'esprit comme on peut réfléchir à des objets matériels, alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas les mêmes propriétés, notamment ce que tu as expliqué, la non-rivalité. Et deuxième chose, c'est que le terme de propriété intellectuelle dans le droit englobe des domaines très différents qui vont du droit d'auteur au brevet et à plein d'autres choses, qui sont très différents dans leurs principes. Donc c'est pour ça que nous, on préfère parler spécifiquement d'un droit particulier, par exemple le droit d'auteur, et que dans son ensemble, le terme propriété intellectuelle ne doit pas être utilisé, parce qu'il pousse à réfléchir sur les œuvres de l'esprit comme on réfléchirait sur des œuvres matérielles. Est-ce que tu as une phrase de conclusion? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, cher Jean-Christophe?
Oui, juste dire que Nina Paley a fait, donc, comme tu l'as dit, d'autres dessins animés, notamment un autre dessin animé de sensibilisation au libre qui montre à quel point toute œuvre créée s'inspire des œuvres existantes. Et donc voilà, je vous invite à découvrir ça. Et puis dans l'attente, eh bien, je me mets en recherche d'une nouvelle ressource libre pour la chronique des Libres du mois prochain. Un grand merci et bonne écoute pour la suite de l'émission.
Merci Jean-Christophe et on se retrouve le mois prochain. Et donc nous allons passer par une petite pause musicale qui va être relativement courte vu qu'elle dure 59 secondes. Et évidemment, c'est la bande-son donc, du dessin animé de Nina Paley, copié n'est pas volé.
Copying is not theft. Stealing a thing leaves one less left. Copying, it makes one thing more. That's what copying's for. Copying is not theft. If I copy yours, you have it too. One for me and one for you. That's what copies can do. If I steal your bicycle, you have to take the bus. But if I just copy it, there's one for each of us. Making more of a thing. That is what we call copying. Sharing ideas with everyone. That's why copying is fun.
Donc nous allons faire une petite pause musicale. Donc c'est le groupe Demi-Sel. Le titre s'appelle Allons voir Cercle Circassien et on se retrouve juste après ça.
Cause commune, cause-commune.fm. Cause commune.
93.1.
Vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous venons de parler de sensibilisation. Nous allons continuer un petit peu avec le sujet suivant de parler de sensibilisation avec le sujet des distributions GNU Linux. Avec nos invités aujourd'hui, donc en studio, Nicolas Dandrimont du projet Debian. Rebonjour Nicolas.
Rebonjour.
Olivier Fraisse, Ubuntu, bonjour Olivier.
Resalut.
Resalut. Charlotte Boulanger, Ubuntu également, rebonjour Charlotte.
Rebonjour Fred.
Et normalement, nous a rejoint au téléphone Jean-Christophe Monard du projet Mageia. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Fred.
Super, donc tout le monde est présent, toutes les personnes sont là. Donc nous allons essayer d'expliquer un petit peu ce que sont ces distributions GNU Linux, comment s'y mettre, comment commencer à utiliser des systèmes libres, comment éventuellement contribuer. Donc nous allons passer une petite heure sur ce sujet. Alors on va commencer par une première question, bah, parce qu'en fait, distribution GNU Linux, il y a plusieurs termes que je pense que les gens qui écoutent ne connaissent pas forcément. Nicolas, peut-être, est-ce que tu veux faire l'introduction pour expliquer ce qu'est une distribution GNU Linux, un système d'exploitation libre?
Alors, une distribution GNU Linux, c'est effectivement un système d'exploitation complet qu'on va pouvoir mettre sur son ordinateur, par exemple. L'idée, c'est que au lieu d'être basé sur le système classique, on peut penser par exemple à Windows de Microsoft. Ça va être basé autour du noyau Linux, qui est un logiciel libre, qui est développé maintenant depuis 25 ans par une communauté de développeurs. Et au-dessus de ce noyau Linux, on va ajouter des logiciels qui seront, dans la majorité des cas, aussi des logiciels libres. Donc des logiciels qui vont permettre d'avoir un environnement de bureau, un navigateur web qui va par exemple être Firefox qu'on va pouvoir utiliser pour naviguer sur Internet, un client email, de la bureautique, etc. Donc tous les logiciels que l'on peut vouloir utiliser sur son ordinateur vont être disponibles à travers les distributions GNU Linux.
Alors tu as expliqué, et après je passerai la parole évidemment aux autres personnes, tu as expliqué Linux et distribution, le terme GNU.
Alors, le terme GNU, ça vient du projet GNU, qui est un... Donc en fait, le projet GNU, c'est un projet de système d'exploitation qui a été lancé par Richard Stallman, dont on a probablement déjà parlé dans cette émission, il y a maintenant 35 ans, 35 ans cette année. Donc l'idée du projet GNU, c'est d'avoir un système d'exploitation qui libère les utilisateurs. Donc l'idée, c'est d'avoir un ensemble de logiciels que tout le monde peut, qui sont des logiciels libres en fait, donc que tout le monde va pouvoir utiliser pour n'importe quel usage, va pouvoir diffuser, va pouvoir modifier et redistribuer. Si on en a les compétences, bien sûr. Mais voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir donc le projet GNU. Et vraiment l'idée d'avoir un système d'exploitation qui soit utilisable par tous pour n'importe quel usage.
Un système d'exploitation libre, entièrement libre, utilisable par toute personne. Olivier, est-ce que tu veux compléter sur cette introduction ?
Je crois que l'essentiel a été dit. Hein. Alors distribution, c'est peut-être pas forcément très clair pour tout le monde. On ne va pas distribuer des GNU en plastique comme on distribue des flyers. Une distribution, c'est un ensemble de logiciels. On peut dire ça comme ça, je pense. C'est une sélection de logiciels libres telle version du noyau, le noyau Linux plus une interface graphique plutôt qu'une autre. Et surtout un système de packaging. Alors, système de packaging, je ne sais pas si je vais pouvoir l'expliquer facilement. Je ne sais pas si Nico est inspiré là-dessus.
Ou peut-être Jean-Christophe. Est-ce que tu veux compléter l'introduction ? Et après, peut-être que je pourrais continuer cette discussion.
Moi, j'ai envie de parler avec un mot français, en pactage. Donc, emballage, en pactage. C'est-à-dire qu'on prépare les morceaux de logiciel. Parce que ce qui est important dans le logiciel libre, avec les quatre libertés, c'est d'avoir un code source. Comment le logiciel a été écrit par des êtres humains, ou à peu près, ce qu'on appelle des informaticiens. Donc on fabrique du logiciel libre et on peut lire son code source, tel qu'il a été écrit. Ensuite, si on veut l'utiliser, il faut transformer ce code source dans un langage que les machines peuvent comprendre. Les machines, elles comprennent que le binaire, le 0 et le 1. Quand on achète un logiciel propriétaire, on n'a jamais que les 0 et les 1, donc on ne sait pas très bien ce qui se passe dedans. Un logiciel libre, il y a quelque part le code source. Et il faut préparer ce code source de manière cohérente. Et là, je crois que pour chaque distribution, le mot cohérence est important. Chaque distribution est un ensemble cohérent de logiciels qui ont été préparés, empaquetés, de manière à être cohérents entre eux pour fabriquer cette architecture qui fonctionne bien, qui est bien huilée d'habitude. Il y a parfois des petits problèmes, mais pas plus qu'ailleurs. Et donc, on a cet ensemble cohérent. Donc Debian, Slackware, Ubuntu, Mageia sont des ensembles cohérents. Ou à partir de ces codes sources qu'utilisent toutes ces distributions, ces codes sources ont reçu un empaquetage, une préparation pour en faire des paquets de 0 et de 1 que l'ordinateur peut utiliser. Parce que ce qu'a écrit l'informaticien, l'ordinateur n'est pas capable de l'utiliser. Il faut lui préparer ça. Est-ce que j'ai pas dit de bêtises ?
Ça me paraît très clair. Donc, en fait, avant l'existence de ces distributions GNU Linux ou d'autres systèmes libres, finalement, les personnes qui souhaitaient avoir un système libre devaient composer elles-mêmes leur système en réunissant tous les éléments nécessaires. Et ce qu'ont apporté les distributions, c'est... Alors, évidemment une sélection de logiciels libres, mais finalement, on va en reparler tout à l'heure, on retrouve à peu près les mêmes logiciels libres sur l'ensemble des distributions. La grosse différence, ça va être peut-être sur l'environnement de bureau, et on en parlera peut-être tout à l'heure, et peut-être aussi sur la présence de logiciels privateurs en plus. Mais ce qu'apportent les distributions, c'est une méthode d'installation qui varie en fonction des distributions, et une méthode de mise à jour des paquets ensuite pour effectivement soit rajouter des paquets, soit mettre à jour les paquets dans leur cycle de vie, parce que ce sont des logiciels libres qui évoluent, et donc il y a un cycle de vie. Est-ce que ça vous paraît à peu près clair comme résumé ?
Ouais, ouais, c'est ça.
D'accord.
Ça
fait. Alors, on va passer donc à la deuxième question. On pourrait se dire, tout à l'heure, c'était Nicolas d'Andrimont, donc de Debian, qui disait, qui parlait de Microsoft Windows. On pourrait aussi citer macOS d'Apple. Les gens qui ont l'habitude de ces systèmes se disent, enfin, ont la compréhension que finalement, l'ensemble des logiciels viennent d'une seule structure, que ce soit Microsoft ou Apple. Et là, aujourd'hui, alors, il y a une ambiance un peu particulière au studio, je préviens, si vous entendez des rires.
Ouais, c'est ma faute.
C'est une ambiance très détendue. Et là, tout d'un coup, on va parler de distribution GNU Linux au pluriel. Donc, nous avons quelqu'un de Debian, deux mêmes personnes d'Ubuntu, quelqu'un de Mageia. Alors, j'ai une question assez basique, entre guillemets. Pourquoi il y a plusieurs distributions GNU Linux? Et qu'est-ce qui les différencie? Pour l'instant, on va rester à un niveau un peu supérieur, sans forcément rentrer dans le détail. Mais pourquoi il y a plusieurs distributions GNU Linux? Qui veut intervenir sur cette question?
Alors, Nicolas d'Andrimont, Debian. On pourrait se poser la même question. Pourquoi il y a plusieurs marques de chaussures? Parce qu'il y a plusieurs formes de pieds. Et parce qu'il y a plusieurs...
Il y a des pieds plus poilus que d'autres?
Non mais enfin je veux dire tu vas pas être confortable dans toutes les paires de chaussures. De la même manière, les usages de l'informatique sont très divers et donc les gens vont vouloir assembler leur univers informatique de la manière qui les intéresse. C'est pour ça que on a une diversité assez large dans les distributions GNU Linux. La possibilité qui est ouverte par la publication du code source et la disponibilité des logiciels et la possibilité aussi de les modifier permet à chacun de trouver chaussure à son pied et de faire chaussure à son pied. Et donc c'est comme ça que enfin on se retrouve avec des centaines voire des milliers de distributions Linux qui sont différentes, qui vont toutes partir de la même base, de plus ou moins les mêmes logiciels, mais qui vont être intégrés de manière subtilement différente pour convenir à leurs utilisateurs. Quoi.
Donc Debian, ce serait comme une grosse botte où il faut lacer pendant très longtemps, et Ubuntu, ce serait la chaussure à scratch, c'est ça?
On peut le voir comme ça.
Alors, on va pas commencer le débat entre les distributions, je vous préviens, hein, je préviens Olivier que on rentre dans le détail des débats tout à l'heure. Jean-Christophe Monard, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette question finalement de l'existence de plusieurs distributions, donc notamment l'existence de Mageia en plus d'Ubuntu, Debian et évidemment des autres qu'on citera tout à l'heure. Jean-Christophe.
C'est à la fois la puissance et la faiblesse du libre, la liberté. La liberté, c'est le choix. Donc les gens qui ont... Je ne parlerai pas de taille de pied différent, mais plutôt d'utilisation différente. Entre un escarpin et une chaussure de montagne, il est clair qu'il vaut mieux avoir des savoir-faire différents. Et certaines distributions sont plus adaptées à faire du serveur, d'autres au grand public, et ainsi de suite, plus les particularismes nationaux hein, qui existent aussi. Donc, je crois qu'à partir du moment où chacun peut modifier quelque chose, hein, moi un jour j'avais pris une distribution, bien que n'étant pas un vrai informaticien, une distribution qui tenait sur 3 disquettes, je l'ai francisée, je peux dire quelque part que ce jour-là j'ai fait ma distribution. Bon, je me suis bien amusé, ça n'a pas servi à grand-chose d'autre, mais... Donc le libre permet plein de possibilités, et je crois que c'est une de ses richesses. Malheureusement, c'est aussi une de ses faiblesses parce qu'il n'y a peut-être pas toujours assez de monde pour telle ou telle distribution. Je me souviens par exemple de la distribution Zenvalk, que j'adorais, mais bon, qui n'est plus vraiment mise à jour.
Alors effectivement, comme tu le dis, après je repasserai la parole à Olivier Fraisse, c'est une des forces et une des faiblesses entre guillemets du logiciel libre. Mais quand tu parlais de ta distribution que tu t'es faite de ton côté, ça me fait penser qu'il est important de préciser qu'il y a aussi des distributions, là on parle de distributions génériques, des distributions spécialisées par exemple pour l'audio, pour la vidéo, pour l'éducation, pour la sécurité. Le but aujourd'hui, c'est pas de les citer toutes parce qu'il y en a beaucoup, et vous retrouverez des références sur le site de l'April ou sur Wikipédia. Et c'est aussi quand même une des grosses forces du libre, effectivement, c'est d'adapter par rapport à des besoins spécifiques et sans dépendre du choix d'un éditeur qui peut-être qu'économiquement n'aura pas intérêt à créer une distribution ou un système d'exploitation pour une communauté dédiée, là où le libre a cette réponse. Et aussi la force de la communauté, on y reviendra tout à l'heure, c'est un des critères de choix, parce que ça va être une de mes questions évidemment, c'est comment on choisit entre ces différentes distributions, c'est un des critères de choix. Olivier, tu voulais réagir ?
Justement, sur le choix, je trouve que c'est l'inconvénient du libre, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choix, et du coup, ça rend inaccessible au grand public. Plus il y a de choix, plus c'est complexe, il faut comparer tout un tas de trucs. Même dans une même distribution, il y a plusieurs variantes, donc dans Ubuntu, mais c'est vrai aussi ailleurs. Il y a plein d'interfaces différentes. Il y a une version pour les ingénieurs du son et de la vidéo qui s'appelle Ubuntu Studio. Il y a KUbuntu, dont on ne sait pas vraiment la différence réelle avec Ubuntu sans le tester directement. Et c'est ça qui fait qui fait que c'est, d'après moi, pas facile pour le grand public de passer à un système GNU Linux. C'est qu'il y a trop de choix. Déjà, il faut expliquer pourquoi GNU Linux, c'est pas juste Linux et c'est pas toujours la même chose. Pourquoi GNU, hein? Pourquoi il faut préciser GNU? Il faut toujours tout expliquer, surtout si on veut être juste. Et voilà. Et surtout le fait d'avoir à choisir. Moi, je me souviens quand j'ai installé ma première Debian. Ça me demandait pourquoi il fallait que je mette un serveur. Enfin, ça me demandait s'il fallait que je mette un serveur IRCD. Je n'ai jamais compris ce que c'était, avec deux i. À chaque fois que j'installais ça chez quelqu'un, j'ai dit bon, cette question-là, tu dis oui ou tu dis non, on s'en fout. Moi-même, je comprends pas. Et il y avait plein de questions. Il fallait choisir entre GNOME et KDE. Qu'est-ce que tu veux expliquer ça à tes potes qui veulent se passer de leur système vérolé? Tu leur mets une Debian, mais ça te pose des questions. GNOME, KDE, alors c'est pas la même forme des boutons, la souris va marcher pareil, mais le curseur sera pas de la même couleur. Enfin, voilà. Bon,
on va revenir sur ces questions-là, parce que là, je crois que sinon, on va perdre les gens déjà, GNOME, KDE. Alors, sur la précision que j'ai demandé au départ sur distribution GNU Linux, comme c'est le terme, titre du sujet, il était important de le préciser, mais j'ai parfaitement conscience que dans des événements libristes, ces questions-là ne sont pas forcément abordées, et c'est pas forcément un mal au départ. Ça, c'est chacun fait les personnes font ce qu'elles veulent. Je voudrais avoir un petit peu la réaction aussi de Charlotte, qui a la délicate tâche aujourd'hui d'être aussi en régie, je la remercie, sur cette multiplicité de distributions, et aussi avoir un petit peu son parcours, parce que comment elle est venue finalement aux distributions libres et sa rencontre avec Ubuntu. Est-ce que tu peux nous faire un petit point là-dessus?
Alors, effectivement, mon parcours n'est pas celui d'une informaticienne, parce que j'ai découvert Ubuntu par le web design, de façon un peu détournée, mais j'avais, en m'intéressant au web design, je me suis intéressée au développement, je me suis intéressée à l'informatique. Et c'était pas lié à mon métier, mais en fait, Linux, quand tu connais pas, même si tu connais pas, ça a une espèce d'aura de personne qui fait de l'informatique pour de vrai. Et en m'intéressant à ça, et je suis partie vers Ubuntu parce que c'est pour les débutants celle qui est conseillée par beaucoup de sites grand public. Moi, par exemple, j'ai découvert avec le site Open Classroom, anciennement site du zéro. Et ça, c'est leur but du jeu, c'est d'être le plus grand public possible. Donc, moi, j'ai commencé avec Ubuntu, par exemple. J'ai essayé Debian il n'y a pas longtemps et effectivement, ça pose beaucoup de questions au début, mais après, c'était plutôt cool. C'était plutôt une bonne surprise parce que on a l'impression qu'il y a un gouffre des fois entre Debian et Ubuntu, alors que pas du tout.
Alors, merci Charlotte. On aura l'occasion de passer tout à l'heure sur la deuxième partie, la partie contribution, parce que ta participation en tant que contributrice est également intéressante. Je vais continuer sur les questions justement. Alors là, je vais vous demander, si possible, d'être relativement bref, ou en tout cas d'être relativement clair. Je vais commencer par Jean-Christophe Monard. D'expliquer finalement en quelques mots votre distribution, pourquoi elle existe, d'où elle vient, comment elle fonctionne. En tout cas, essayer de la vendre aux personnes qui écoutent, et pour qu'on comprenne mieux un petit peu quel est le positionnement de chaque distribution et éventuellement les différences entre elles. Donc, Jean-Christophe, sur Mageia.
Bien, Mageia, ce qui caractérise Mageia aussi bien que ses ancêtres, c'est la facilité d'installation, la facilité d'utilisation, de mise à jour. Il y a toute une interface graphique hein, le, qui est tout un système graphique qui permet donc de gérer cette distribution sans faire de ligne de commande. Alors, je me souviens une fois aux rencontres mondiales du logiciel libre, il y avait un Debianeux qui, pour se moquer d'un ancêtre de Mageia, disait « Bon, ça c'est une distribution pour les secrétaires, c'est pas une distribution pour les hommes, les vrais. » Je lui ai répondu « Oui, parce qu'avec ça, une secrétaire installe facilement un serveur ou un poste client sans avoir besoin d'un informaticien. » Donc, Mageia, puis aussi parce que j'ai rencontré... c'est une communauté qui est en grande partie francophone, donc ça c'est intéressant. Donc c'est pour ça que j'utilise, entre autres. Et voilà, c'est quand je vais chez les gens pour installer Linux, ou au cours des install parties, bon, c'est effectivement la distribution que je préconise pour les débutants, bah, à cause de sa grande facilité et sa variété d'interfaces graphiques. On peut choisir en fonction des personnes, et puis d'une équipe qui est assez réactive.
Alors... Mageia, c'est une distribution qui existe, et, alors, je ne sais plus depuis combien de temps. Tu parlais des ancêtres, c'est dérivé d'autres distributions qui existent depuis une vingtaine d'années. Ça me fait penser que d'ailleurs, je crois que les premières distributions GNU Linux doivent dater de 1992, avec vraiment les premières, à l'époque des noyaux Linux 0.90, quelque chose. Alors, Nicolas me fait un petit signe en doutant, mais étant plus vieux que Nicolas, j'ai à peu près confiance sur le fait que la première fois que j'en ai utilisé une, c'était à cette époque-là. Et je crois que d'ailleurs, celle-là existe toujours, c'était Slackware. C'était à l'époque sur des disquettes, il devait y avoir 50 ou 70 disquettes. En tout cas, voilà, Mageia a une longue historique de mise à jour. C'est une distribution, il faut le rappeler que l'association qui porte Mageia est une association dont le siège social est à Paris. Il y a un forum qui a l'air très actif en français, comme les forums d'Ubuntu. D'ailleurs, c'est là que j'ai sollicité à avoir quelqu'un de Mageia suite au fait que, au changement de date, la personne qui devait parler de Mageia, Anne-Nicolas, ne pouvait plus être disponible. Donc voilà, ça c'est Mageia. On va passer maintenant la parole donc à Nicolas Dandrimont pour Debian.
Du coup, la distribution Debian, notre slogan, c'est d'être le système d'exploitation universel. La distribution, elle a été créée en août 1993, donc elle fait partie des toutes premières distributions Linux qui ont été créées. Donc notre vision, c'est d'avoir une distribution qui soit le plus proche possible de ce que vont fournir les projets amont. Donc les logiciels que l'on va empaqueter dans notre distribution vont être le moins modifiés possible par rapport à ce qui est publié par les auteurs originaux. Notre autre force, c'est la diversité des architectures sur lesquelles on fonctionne, c'est-à-dire que Debian va pouvoir fonctionner du téléphone au supercalculateur en passant bien sûr par l'ordinateur classique de bureau ou ordinateur portable. Voilà, on va pouvoir faire tourner les mêmes logiciels sur toute cette diversité de dispositifs, d'ordinateurs.
Je voudrais intervenir sur Debian pour en dire du bien. Un jour, un expert en sécurité m'a dit à propos de Debian que ce sont les gardiens du temple, parce que non seulement la distribution utilise des logiciels libres, mais le fonctionnement associatif au niveau mondial de Debian cherche à appliquer les valeurs du libre. Bon, maintenant aussi chez Mageia, puisque nous ne sommes plus dirigés par une entreprise, hein, mais par une association. Mais je pense que c'est ça, les gardiens du temple, ça correspond très très bien à Debian.
Eh ben, merci, oui, effectivement, ça fait partie des choses qui sont qui sont vraiment au cœur de Debian. C'est, la philosophie du projet est très proche de la philosophie qui est à la base du logiciel libre. Je ne sais pas si tu as prévu d'en reparler après, Fred.
Alors, ça dépendra évidemment du temps disponible. Et Debian est souvent la mère d'autres distributions plus spécialisées.
Oui, aussi, oui.
Voilà, c'est pas une distribution un petit peu effectivement à part. Olivier et Charlotte sur Ubuntu FR, qui en premier ?
Sur Ubuntu FR ?
Enfin, sur Ubuntu.
Sur Ubuntu. Parce qu'on avait une version francophone d'Ubuntu, mais on a arrêté de la faire. Elle avait de différent que le fait que le français était la langue par défaut. Et très momentanément, on a désactivé des fonctionnalités très contestées dans la communauté, qui était la recherche dans Amazon.
Je n'avais pas prévu d'en parler, mais bon, c'est bien que
tu cites. Non, mais il n'y a pas de problème.
Alors, Ubuntu.
Il y a eu des... C'est ça qui est aussi la différence avec Debian, c'est que Ubuntu est relativement impur. Debian est la mère de Ubuntu. Pas la merde, hein. Là, j'ai dit la merde.
Olivier, excusez-moi.
On est à la radio. Non, c'est sans Debian, il n'y aurait pas d'Ubuntu. Et d'ailleurs, quand on nous demande comment contribuer à Ubuntu, généralement, on renvoie vers Debian. On dit contribuer à Debian, vous aiderez Ubuntu. Et je pense que Debian survivra à la fin du capitalisme beaucoup mieux que beaucoup plus facilement qu'Ubuntu. Voilà.
Alors, je ne suis pas sûr que la fin du capitalisme, on ait le temps de le traiter dans l'heure de l'émission. Donc, est-ce que tu peux, en quelques mots, nous donner la spécificité d'Ubuntu?
Non, mais j'avais pas prévu de rentrer complètement dans les cases que tu avais imaginées.
D'accord. Mais à ce moment-là, je vais demander à Charlotte, alors. Charlotte,
vas-y. Je suis Charlotte. Censée pas parler de la fin du capitalisme, là. Ah, non. Merde.
Notre plan non. tombe à l'eau.
SOS. Non, Ubuntu, moi, je veux bien parler des mauvais côtés quelque part parce que
vas-y.
Faut pas hésiter, quoi. Mais bon. En fait, Ubuntu, pour beaucoup de personnes qui sont dans l'univers du logiciel libre, qui sont des libristes, c'est pas mal Canonical, en fait, qui est l'entreprise qui a créé, qui a lancé Ubuntu, disons, et qui prend pas mal de décisions, dont les petits boutons Amazon, qui sont là par défaut, et c'est ce genre de choses. Il faut entendre les critiques sur Ubuntu, et quand quelqu'un me dit avec un air, comme le disait Jean-Christophe sur Mageia, quand quelqu'un d'une autre distribution vient me voir en me disant « Ah ouais, je suis pas sur Ubuntu parce que machin, c'est super cool pour toi, quoi. » Par contre, voilà, Ubuntu a cette raison d'être facile pour les débutants. C'est une bonne porte d'entrée, en tout cas, vers le monde des distributions libres.
Merci Charlotte. Et très clairement, Ubuntu a joué un rôle considérable pour l'accès, la découverte du grand public au logiciel libre, à la fois par sa facilité d'installation, d'usage, à un moment où Debian n'était peut-être pas à ce même niveau-là, et aussi par les Ubuntu parties, dont on reparlera tout à l'heure, les événements, c'est-à-dire la communauté, l'accueil, etc. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose en lien avec le capitalisme ou Ubuntu?
Non, c'était pour dire qu'effectivement, moi, si je suis sous Ubuntu et que je participe à l'association Ubuntu francophone, c'est essentiellement... parce que ça permet au grand public d'accéder au logiciel libre. Et c'est en ça que je trouve Ubuntu génial. Mais et que c'est plus facile de le faire avec Ubuntu qu'avec Debian ou Fedora ou Mageia, d'après moi.
Je suis coupé, mais je suis tout à fait d'accord avec ça.
D'accord. Alors nous allons poursuivre notre échange après une pause musicale. Donc nous allons écouter Lord's Mistake de l'album Not Kings par Candy Says. Et on se retrouve juste après.
Cause commune, cause-commune.fr. I'm not your candy girl.
Vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.10 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Vous écoutez l'émission donc de l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Nous parlons actuellement des systèmes d'exploitation libre, donc avec mes invités Nicolas Drandrimont pour le projet Debian, Olivier Fraisse pour le projet Ubuntu, Charlotte Boulanger aussi pour Ubuntu et Jean-Christophe Monard avec nous au téléphone pour Mageia. Donc juste avant la pause musicale, ah oui, la pause musicale c'est Lord's Mistakes de Candy 16, c'est en licence libre CC BY SA, donc partage dans les conditions à l'identique et vous retrouvez la référence sur le site de l'April. Donc juste avant la pause, nous parlions un petit peu des différences entre les distributions Mageia, Ubuntu et Debian. Nous allons maintenant aborder le sujet, parce qu'évidemment, on a parlé des distributions, mais comment s'y mettre ? Parce que l'une des difficultés aujourd'hui du monde du logiciel libre, enfin, pas aujourd'hui, d'ailleurs, depuis très longtemps, c'est que le fait, quand on achète un ordinateur dans le commerce, il est très souvent préinstallé avec un système d'exploitation privateur, donc que ce soit Microsoft Windows ou macOS d'Apple, et donc, assez souvent, on doit installer une distribution GNU Linux si on veut commencer à utiliser un environnement entièrement libre. Alors, de ce point de vue-là, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'installer des distributions GNU Linux par n'importe quelle personne ? Qui veut commencer ?
Moi, je vais en parler.
Ah, Jean-Christophe, vas-y.
Oui, parce que j'ai donc participé à beaucoup d'installations dans les install parties ou chez les particuliers. La plupart des gens n'installent pas Windows, donc effectivement, ils ne savent pas très bien installer un système d'exploitation. Donc il vaut mieux quand même avoir quelqu'un avec soi, ne fût-ce que pour être rassuré psychologiquement. Bon, quelques personnes douées peuvent le faire uniquement en lisant des conseils sur le web ou dans des livres, des revues, il y en a des très bonnes, mais en général, il vaut mieux quand même être accompagné parce qu'il y a des questions de vocabulaire qu'on ne sait jamais poser et là, on gagne quand même beaucoup de temps. Enfin, c'est le conseil que je donnerais. Et naturellement, essayer de contacter une association d'utilisateurs de logiciels libres. Il y en a à peu près partout en France maintenant.
Nicolas Drandrimont.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement à la portée de tout un chacun de pouvoir installer une distribution avec une distribution GNU Linux. Par contre, l'aspect communautaire est super important. Et la vie de la communauté et faire en sorte que les gens comprennent que dans le logiciel libre, il n'y a pas que un outil technique qui est super utile, qui est un système d'exploitation, mais qu'il y a aussi une philosophie, des valeurs et puis des gens qui sont derrière ces projets. C'est super important. Et du coup, les initiatives comme les premiers samedis du libre de Paris Nux, qui sont des install parties en fait.
Alors les premiers samedis donc de Paris Nux, qui est le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciel libre de la région parisienne, donc ça se passe à la Villette chaque premier samedi du mois. Et une install party, c'est une fête d'installation, ou en tout cas un événement dans lequel il y a des personnes qui ont certaines compétences un peu avancées sur l'installation de logiciels libres et de distributions libres, qui aident d'autres personnes à se faire installer, donc accompagnent des personnes débutantes à l'installation de distributions libres.
À la Cité des Sciences, je précise. T'as dit à la Villette ?
Ah, à la Villette, donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie. De la Villette à Paris.
Au Carrefour numérique.
Mais ce genre d'événements existent dans d'autres événements en région et on les retrouve sur le site de l'agenda libre.
Oui, bien sûr. Et puis ces événements-là, ça fait aussi un point un peu fixe, un point focal où les gens qui ont un système libre sur leur machine peuvent venir poser leurs questions. Ça fédère vraiment les communautés. Je sais que par exemple, je reprends l'exemple de la Villette, il y a des gens qui installent des Ubuntu, des Mageia, des Fedora. D'autres distributions diverses et variées quoi. On est vraiment tous contents de s'entraider en fait et puis d'aider les gens à se libérer.
Charlotte, toi qui pas qui participe, alors je laisse le temps d'allumer son micro, toi qui participe aux Ubuntu Party, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est obligatoire de devenir une Ubuntu Party pour se faire installer Ubuntu? C'est sans doute un bon conseil. Voilà, oui.
Elle organise,
c'est vrai. Mais...
C'est une expression prêchée pour sa paroisse, un truc comme ça.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne une Ubuntu Party?
Alors, une Ubuntu Party, il y a une install party et il faut avouer que c'est l'événement central. Une install party, donc vous l'avez compris, on aide les gens à installer un système d'exploitation libre sur leur machine. C'est ce dont parlait Nicolas, je crois, ou Jean-Christophe, je ne sais plus.
Les deux.
C'est magnifique. Mais oui, c'était Jean-Christophe parlait qu'on peut avoir besoin d'aide pour se rassurer, et c'est exactement ça. Après, une Ubuntu Party, c'est un peu particulier par rapport au premier samedi du libre, parce qu'il y a aussi des conférences à côté qui sont filmées. Des ateliers aussi où on met des gens devant un ordinateur et puis on va dire bon ben là on va apprendre comment prendre en main son environnement Ubuntu par exemple et plein d'autres sujets.
Ça dure deux jours complet,
sauf s'il y a des manifestations, ça dure un seul jour dans ces cas-là. Oui. Rapport à la dernière Ubuntu Party,
Charlotte fait référence à l'annulation de la dernière Ubuntu, enfin du samedi de l'Ubuntu Party suite à la fermeture des lieux culturels à Paris pour les manifestations gilets jaunes,
c'est ça, voilà. Et pour clarifier, avec Olive on fait partie de Ubuntu FR, c'est pas
explique-nous ce qu'est Ubuntu FR.
Oui, ça peut être bien, ouais. C'est l'association francophone des utilisateurs d'Ubuntu. C'est des utilisateurs, quoi. Alors il y en a qui contribuent, pas tous. Moi, j'ai jamais contribué à la distribution Ubuntu. J'ai uniquement contribué à l'association Ubuntu FR en faisant notamment des designs, des t-shirts, des sites internet de temps en temps. Mais la communauté, et il faut distinguer la communauté Ubuntu FR de ceux qui font la distribution. Est-ce que Olive, t'es d'accord avec moi?
Oui, c'est ça. Dans Ubuntu FR, donc Ubuntu francophone, il y a très peu de contributeurs au code de Ubuntu et des logiciels qui composent Ubuntu. C'est essentiellement les 200 000 inscrits du forum Ubuntu FR et les organisateurs et les bénévoles des Ubuntu Party, ouais.
Alors, avant de passer la parole à Jean-Christophe et Nicolas sur la partie justement forum, communauté, c'est important ce point que tu évoques, Charlotte, c'est qu'on pense que contribuer au logiciel libre, ça passe que par la contribution au code. C'est une des contributions évidemment essentielles, parce que sans logiciel libre, sans contribution au code, il n'y aurait pas forcément de logiciel libre. Mais on peut contribuer, comme tu le fais, Charlotte, toi, par du design, parce que toi, à titre professionnel, tu fais du design. D'ailleurs, je précise, parce que je ne l'ai peut-être pas dit au début, en fait, que toutes les personnes qui sont invitées aujourd'hui sont des bénévoles dans chacun des projets. Charlotte contribue par du design, tu l'as fait pour les t-shirts et puis pour les plaquettes. On peut contribuer en écrivant de la documentation dont faisait référence tout à l'heure Jean-Christophe Monard de Mageia pour expliquer aux personnes débutantes comment installer du logiciel libre ou comment utiliser tel logiciel. On peut faire de la traduction, etc. Je crois que Nicolas, c'est là-dessus que tu voulais réagir.
Oui, je suis pas du tout d'accord avec Charlotte qui dit non, je contribue pas à Ubuntu, je fais que du design pour Ubuntu FR. Ça a aucun sens, quoi. Les contributions comme ça qui permettent d'animer et de faire grandir la communauté, elles sont critiques à la vie de nos projets, quoi.
En plus, c'est le seul avantage de Ubuntu, c'est son design. Donc,
pourtant, j'ai essayé de bien préciser la distribution, mais c'est vrai qu'indirectement, du coup, les gens dans la communauté, etc. Bon.
Jean-Christophe, justement, la communauté Mageia, je crois qu'il y a des forums Mageia en ligne, il y a des listes de discussion. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît?
Je crois que, comme la plupart des projets libres, et on parle de distribution, je voudrais placer un petit mot en plus. Parfois, il nous arrive tous d'installer des logiciels libres sous Windows, qui est une première étape avant de passer aux distributions.
Tout à fait.
Et pour rebondir ce qui a été dit, je pense qu'effectivement, j'ai vu un chiffre une fois, précisément je ne sais pas, mais que la moitié du travail d'une distribution, ce sont des non-informaticiens. C'est effectivement la traduction, la documentation, c'est faire connaître, et, parce que cette distribution, elle n'est pas autiste, elle ne va pas se limiter à être utilisée par ceux qui la font, enfin la plupart du temps, en tout cas pour Ubuntu, pour Mageia et pour d'autres. Alors, pour Mageia, effectivement, nous avons des listes à peu près dans toutes les langues, toutes les langues utilisateurs, ça en fait beaucoup, des forums IRC, des blogs, qui permettent donc les remontées, les difficultés, parfois aussi les félicitations, les remerciements aux contributeurs informaticiens. Et donc, effectivement, toute cette communauté internationale, bon, en grande partie française, mais pas exclusivement, pas du tout. Donc, il y a aussi pas mal de Brésiliens, d'Allemands, et ainsi de suite. Donc, toute cette communauté amène ses contributions, donc qui sont pas du code pur. Chacun à son tour, à un moment de sa vie, peut contribuer et profiter. Donc, c'est vraiment... je me souviens, un jour, Michel Rocard avait dit que un grand avantage du logiciel libre, c'est qu'on a intérêt à ce que l'autre réussisse. Et je pense que, bon, enfin, en tout cas, pour moi, philosophiquement, c'est une chose importante dans le libre. Ça permet donc plus de partage, de solidarité, on va dire même d'amour chrétien entre les êtres humains. Hein. On a intérêt à ce que l'autre réussisse, et c'est pas de la jalousie. C'est l'autre fait quelque chose, fait un joli dessin, une couverture de CD ou un peu de documentation, tout le monde va en profiter, même au-delà de la distribution. Il y a des contributions à telle ou telle distribution qui vont profiter aux autres. Hein.
Oui, tout à fait. Il y a des contributions effectivement croisées. Donc merci Jean-Christophe. Ça me fait penser. J'aurais juste abordé deux petits points où parler pas. Je ne sais pas qui voudra en parler parce que dans l'arrivée vers les distributions logicielles libres, il y a deux points qui me paraissent intéressants. C'est la notion de double amorçage, c'est-à-dire qui existe encore aujourd'hui par quelqu'un qui veut garder par exemple son Microsoft Windows. Et la deuxième notion que je voudrais que vous explicitiez, c'est les CD ou clés USB dites live, c'est-à-dire autonomes.
Alors, ouais.
L'éclat d'endémon, Debian.
Oui, bah du coup, effectivement, si on veut faire un premier pas vers le logiciel libre sans sauter dans le grand bain, effectivement, bah la première solution, Jean-Christophe en parlait, c'est d'installer des logiciels libres sur son système d'exploitation existant. Il y a beaucoup de gens qui le font, notamment installer LibreOffice ou Firefox sous Windows, c'est un grand classique. Après, si on veut tester les systèmes d'exploitation GNU Linux, le plus simple, effectivement, c'est de prendre une clé USB. Qui va avoir le système d'exploitation dessus. On va pouvoir la démarrer et la tester sans rien modifier sur son ordinateur. Donc ça permet effectivement de tester l'environnement de bureau, de voir si on est confortable ou pas avec le système. Et après, une fois qu'on est prêt à sauter le pas et avoir une installation fixe sur son ordinateur, on peut effectivement faire de la place à côté de son système d'exploitation existant. Donc on garde son système d'exploitation existant et on ajoute en double amorçage la distribution Linux qui nous a fait plaisir.
La distribution GNU Linux ?
Oui, Linux, GNU Linux, GNU FreeBSD.
Et donc, il faut préciser qu'au démarrage de la machine, ensuite, il y aura un menu qui permettra de choisir le système d'exploitation qui démarrera.
Effectivement, voilà, on va avoir quelques secondes au démarrage de la machine pour choisir sous quel système on veut démarrer.
Jean-Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point ou Olivier ?
Oh bah oui, bon, la plupart des distributions grand public maintenant ont des CD-ROM, enfin plutôt des DVD maintenant autonomes, mais je voudrais souligner donc un apport de Debian qui est fait par donc un professeur allemand, le Herr Dr. Knopper, qui nous fait la fabuleuse Knopix, donc, que j'ai utilisé très souvent pour des démonstrations ou pour tester du matériel. Si je veux acheter un ordinateur ou quand je le récupère à la déchetterie, ce qui coûte beaucoup moins cher, je le teste d'abord avec une Knopix ou un CD-ROM live. Et au passage, une chose pour parler du logiciel libre, toutes nos distributions, certains systèmes d'exploitation propriétaires passent beaucoup de temps à observer ce que nous faisons et à chercher à savoir s'ils nous en donnent la permission. Et donc ça veut dire beaucoup de puissance de calcul. Ce qui fait que très régulièrement sur des ordinateurs, disons-le que je récupère, qui ont 10 ans d'âge, je retire le système Windows, j'installe Linux et il marche aussi vite qu'un système Windows récent. Et ça c'est un grand avantage. On peut adapter Linux à aussi bien des super serveurs des ordinateurs de récupération, ce qui leur évite de partir ensuite dans des déchetteries où ils seront plus ou moins bien traités.
Alors, voilà. Merci Jean-Christophe, parce que ça me fait penser à un point suivant et on reviendra au point précédent sur les distributions, parce que je voudrais quand même que vous parliez rapidement des environnements de bureau, parce que ça me semble être une des principales différences au niveau des distributions. Là, on a parlé d'installation d'un système libre sur un ordinateur, mais quid de la personne qui veut effectivement, enfin qui veut se procurer une machine avec un système préinstallé. Donc, je voudrais déjà citer et je vous laisserai proposer vos propres solutions. Un site qui me paraît très important et qui est en référence sur le site de l'April, c'est le site de Bon Vendeur d'ordinateurs. vendeur.info, donc c'est bon-vendeur-ordinateur.info. C'est un site qui existe depuis très longtemps, sur lequel vous retrouvez en fait des vendeurs qui vendent, alors ça peut être des boutiques en ligne, des boutiques sur rue, hein, qui vendent des ordinateurs, alors soit nus, c'est-à-dire sans système d'exploitation, et donc vous ne payez pas la licence Microsoft, soit des systèmes préinstallés avec des versions libres des distributions GNU Linux, donc ça peut être Ubuntu, Debian. Tout à l'heure, Jean-Christophe parlait des vieux ordinateurs. Moi, à titre personnel, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. À la maison, j'ai des ordinateurs, des laptops, donc des ordinateurs portables qui datent de 2010 pour mes enfants, que j'ai acheté donc chez un de ces revendeurs qui est cité, qui est en l'occurrence Ecoder, donc qui est une structure qui fait le recyclage d'ordinateurs, qui fait travailler des personnes en situation de handicap et en reprise d'emploi. Alors il y a des versions avec Microsoft Windows, mais aussi des versions avec Ubuntu. Donc j'en ai acheté. Alors je suis désolé. Ensuite, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai installé Debian à la place. Et ces machines fonctionnent très bien. Mes enfants les utilisent au quotidien. Un autre de mes serveurs est sur une autre distribution, alors libre, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est Triskel. Mais en tout cas, voilà, ce site est important, donc qui permet d'avoir l'ordinateur soit préinstallé avec un système libre, soit éventuellement nu. Est-ce que vous avez d'autres pistes de réponse là-dessus?
Moi, absolument pas.
Non. Alors, Jean-Christophe Modard, et après
Nicolas. Un petit conseil. J'ai toujours été beaucoup plus satisfait d'aller chez des assembleurs ou des petits revendeurs, des artisans qu'on trouve dans les villages, dans les petites villes, qui vous fabriquent votre ordinateur ou qui, enfin, ils ne le fabriquent pas, mais ils assemblent ce qu'il faut, plutôt que dans les grandes surfaces. Parce que là, de toute façon, en plus, on aura beaucoup de mal à se faire rembourser Windows. Parfois, ça coûtera plus cher de se le faire rembourser si on veut le retirer. Et on est souvent avec des machines qui sont très captives, très propriétaires.
Et donc, sur le site bonvendeurdordinateur.info, vous trouvez des références de vendeurs en ligne et de vendeurs dans les différentes régions. Je citais Ecoder parce qu'ils sont en région parisienne, mais ils livrent. Et il y a des revendeurs, effectivement, sans doute dans la plupart des régions françaises qui permettent de récupérer des machines recyclées, voire des ordinateurs nus. Alors, par rapport aux licences Microsoft Windows qu'on appelle la vente forcée, malheureusement, alors c'est un sujet qu'on abordera sans doute un jour, malheureusement, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que ce n'était pas une pratique déloyale en toutes circonstances, alors qu'en fait c'en est une, parce que concrètement on ne peut pas se faire rembourser ou se faire désinstaller Microsoft Windows, alors qu'il existerait des solutions techniques, car tout à l'heure quand on parlait du double amorçage, une solution technique serait simplement que les fabricants préinstallent plusieurs systèmes et lors de l'achat de l'ordinateur, avec un code d'activation qui serait par exemple payant pour Microsoft Windows ou un coût raisonnable pour d'autres systèmes, permettrait d'activer tel ou tel système. Bon, c'était une petite parenthèse. Je crois que Nicolas, tu voulais réagir sur ce point-là.
Non, pas.
Compléter, vas-y.
Je pense à des fabricants. Là, c'est plus sur du matériel neuf, du coup, qui poussent des solutions libres. Je pense à Librem, par exemple, qui est un fabricant de matériel qui fait des ordinateurs portables et qui commence à faire des téléphones aussi, qui tourne sur une distribution qui s'appelle PureOS et qui est une dérivée de Debian. PureOS d'ailleurs emploie un certain nombre de développeurs Debian pour faire leur travail dans Debian. Et donc ça, en plus d'avoir du logiciel libre, on a du matériel qui est un peu meilleur au niveau du respect de la vie privée de ses utilisateurs. Ouais, ils font ce qu'ils peuvent pour essayer d'avancer sur ces questions.
C'est peut-être un peu plus cher comme matériel, je crois.
Alors oui, ça a un coût
La liberté a un coût.
Malheureusement, oui, c'est pas des produits de masse encore aujourd'hui. Donc
pour
c'est
le
des produits pour le moment. Hein, enfin voilà, il y a bon espoir pour que ça se généralise, mais aujourd'hui c'est effectivement des produits qui sont plutôt sur le haut de gamme au niveau prix quoi.
Et leur téléphone Purism Librem 5 tournera donc sur PureOS effectivement, mais pourra aussi faire tourner Ubuntu Touch. Je le précise parce que on présente souvent la version à téléphone d'Ubuntu comme abandonnée, mais c'est pas totalement le cas grâce à la fondation qui s'est montée autour de ce projet Ubuntu Touch.
It's alive.
Et yes. Librem, on en a parlé lors de notre sujet sur la téléphonie mobile libre, que le téléphone mobile est annoncé pour avril-mai. Et par rapport aux autres fabricants de téléphonie qui ont un système, alors soit iOS pour Apple, soit Android. L'idée du LibreM, c'est de partir d'une distribution, on va dire générique, la distribution mère de toutes les distributions, c'est-à-dire Debian, de l'adapter et d'en faire pure OS, ce qui permettrait aussi d'avoir de régler pas mal de problèmes techniques liés en fait à Android, pas mal de problèmes de vie privée aussi. Donc je vous invite à réécouter le podcast qui est disponible sur le site de l'April. Alors je vois que le temps avance, je voudrais revenir sur un petit sujet qui me paraît être une différence souvent dans les entre les distributions, et je vais solliciter Charlotte sur cette question-là, mais aussi évidemment les autres personnes. Tout à l'heure, Nicolas disait qu'une des premières étapes, et Jean-Christophe, c'était d'installer des logiciels libres sur son environnement privateur, parce qu'ensuite, après, on les retrouve sur l'environnement libre. On retrouve VLC, Firefox, LibreOffice. Par contre, un des gros changements, c'est l'environnement de bureau. C'est-à-dire que là, l'environnement de bureau, tout à l'heure, c'était Olivier Fraisse qui parlait de KDE, qui est un environnement de bureau, Gnome, qui est un autre environnement de bureau, moi, j'ai un autre environnement de bureau. Ça me paraît être un changement vraiment important pour les personnes qui débarquent d'un environnement différent, Windows ou macOS. Dans ton expérience, Charlotte, est-ce que c'est un point bloquant? Comment vous expliquez ça? Est-ce que vous orientez les personnes vers tel ou tel bureau?
Alors c'est vrai que souvent quand on dit aux gens, alors on vous a installé Ubuntu et là on vous fait un atelier Gnome qui est l'environnement de bureau, il y a un peu une incompréhension de temps en temps sur attendez, c'est quoi Gnome, c'est quoi Ubuntu, tout ça, et là on doit expliquer que Ubuntu, ça, vous pouvez l'avoir avec un environnement de bureau, donc là les touches elles sont comme ça et tout, et puis là c'est en bas à gauche pour aller pour ouvrir tel menu alors que l'autre c'est en haut à droite, etc. Enfin, c'est des petits changements. C'est des petits changements pour un libriste, quelqu'un qui va voir plutôt les grosses différences entre les distributions, mais pour quelqu'un, par exemple, je sais pas, une personne âgée qui a déjà du mal à, je sais pas, changer son fond d'écran, je dis ça parce que j'en connais, c'est assez important. Moi, de mon expérience, quand quelqu'un veut installer Ubuntu et c'est sa première utilisation, je lui conseille d'utiliser ce qui est par défaut dans la dernière version. En ce moment, c'est Gnome, par exemple. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à la moindre difficulté, les tutoriels les plus récents que la personne va voir seront souvent avec cet environnement de bureau-là. Après, voilà, il y en a qui me disent « Ah mais oui, moi je fais du montage vidéo, je fais du graphisme, quel environnement me conviendrait le plus ?» Et là, si la personne est à l'aise, je lui dis « J'hésite pas à la rediriger vers Kubuntu,
Ubuntu Studio,
Ubuntu Studio que moi j'aime pas personnellement. Mais... »
Merci Charlotte. Est-ce que Jean-Christophe, tu veux ajouter quelque chose sur cet aspect bureau, environnement de bureau?
Alors, il y a effectivement un phénomène que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est qu'autrefois, il y avait donc le DOS, et puis on tapait Win, et puis il y avait Windows 3.1 qui apparaissait. Donc pour cette génération-là, parfois, on peut montrer qu'il y a plusieurs gestionnaires de fenêtres, hein, plusieurs Windows pour Linux, tandis que Windows n'en a qu'un seul. Et bon, la liberté fait parfois un petit peu peur. Alors au début, moi, ça dépend, moi, beaucoup de la puissance de l'ordinateur. Quand c'est vraiment une machine ancienne, peu puissante, bon, ASWM par exemple, je ne sais pas si je le prononce bien, et qu'il y a des environnements de bureau qui sont très légers, XFCE est quand même aussi assez léger.
Oui.
Sinon, c'est vrai que par défaut, souvent, sous Mageia, nous mettons en place KDE. Là, les gens s'adaptent assez rapidement en général, parce que ça ressemble un petit peu à Windows, il y a un bouton en bas à gauche, ça marche assez bien. Effectivement, bon, c'est une question parfois pour les gens. Au bout d'un certain temps, ensuite, ils vont en essayer plusieurs environnements de bureau. Ils verront que certains sont plus pour les artistes de l'informatique ou plus faciles à utiliser. Il me semblait, à propos d'Ubuntu, que la version pour la vidéo, la différence, c'était surtout le noyau qui permettait du traitement en temps réel plus que l'interface graphique.
Oui, c'est en effet. Mais il y a aussi un changement d'interface graphique de ce dont je me souviens Ubuntu Studio, mais j'avoue que je ne l'ai pas testé récemment. Il me semble que c'est sous KDE, hein, Ubuntu Studio.
Alors, moi, j'avais essayé...
Mais effectivement, il y a le noyau real-time.
Voilà. Autant pour moi.
Toi, tu avais essayé Ubuntu Studio, Charlotte?
Alors non, Kubuntu, il me semble. Enfin, en fait, c'était encore quelque chose d'autre.
KDE Live.
Peut-être.
Il était par-dessus. Le logiciel de montage.
De montage vidéo.
Ouais.
Alors, le temps passe vite. Il va nous rester à peu près 5 minutes sur ce sujet. Avant de faire un tour de table final, j'ai une question, on a parlé de distribution libre, mais en fait, il n'y a pas forcément que des logiciels libres installés sur les distributions. Est-ce qu'on pourrait faire un petit point donc, sur cette séparation entre les logiciels libres et non libres sur les distributions et aussi par rapport aux critères donc, de la Fondation pour logiciels libres, qui a émis un certain nombre de critères pour dire que telle distribution n'installe que du logiciel libre, donc en allant jusqu'au BIOS, c'est-à-dire le petit bout de programme qui démarre, qui s'exécute au démarrage de l'ordinateur avant même le système d'exploitation. Quelle est votre politique par rapport à cette information des personnes qui l'utilisent au niveau de la séparation logiciel libre, logiciel privateur? Je vais commencer par peut-être par Ubuntu.
Ouais. Vas-y. Alors moi, je pense que c'est très bien qu'on puisse installer une distribution GNU Linux comme Debian sans la moindre trace de logiciel privateur, sans le moindre driver pollué.
Pilote de périphérique.
Sans le moindre pilote pas libre. C'est nécessaire que ça existe. Après, je pense que si on veut diffuser des solutions libres au plus grand monde, il faut accepter des compromis comme le fait Ubuntu avec des drivers Wi-Fi notamment qui ne sont pas libres dans la version la version d'installation. En fait, quand tu installes Ubuntu, il te permet de te connecter à ton Wi-Fi avec des pilotes pas libres pour pouvoir faire l'installation correctement. Mais surtout, après, il t'informe. Une fois que tu es installé, il te dit au fait, tu veux des drivers ou tu veux pas Internet. Voilà.
D'accord.
Ça me semble super nécessaire aussi de faire ce genre de compromis. Après, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on va parler des distributions payantes qui sont libres mais payantes comme Red Hat?
Non, parce que là, on s'adresse vraiment à la distribution directement accessible pour le grand public.
Parfait.
On fera un deuxième sujet de toute façon sur les distributions où on abordera d'autres sujets, dont les distributions pour entreprises, etc. Oui, tout à fait.
Et avant de passer la parole à Nico, justement, il me semble que Debian aussi a touché à des pilotes pas libres, fut un temps, mais c'est peut-être plus le cas.
Alors, Nicolas Dandrimon pour Debian, et après Jean-Christophe.
Ouais, effectivement, aujourd'hui, la distribution par défaut de. Si on fait une installation par défaut de Debian, aujourd'hui, on a 100% de logiciels libres. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, notamment au niveau du noyau Linux, pour séparer la partie noyau logiciel et tous les petits micro-logiciels qu'on va mettre dans divers périphériques pour qu'ils puissent fonctionner, qui sont eux justement pas forcément libres. Donc ça, ce travail-là, il a été pas mal poussé par Debian. On a la possibilité, par contre, de effectivement ajouter les pilotes de périphériques et les micro-logiciels qui sont nécessaires pour le fonctionnement du matériel, qui sont du coup des logiciels qui ne sont pas libres. On met pas trop ça en avant sur nos pages web, sur notre documentation. Par contre, c'est des choses qui sont vraiment disponibles publiquement et qui sont assez proches, en fait. Ils sont dans la même archive que les logiciels libres. Et c'est d'ailleurs le reproche qui nous est fait par la Free Software Foundation.
Pour la Fondation pour le logiciel libre. Oui.
C'est que la partie non libre de Debian est pas assez bien séparée de la partie libre. Voilà, c'est un peu la position orthodoxe de la FSF là-dessus, quoi.
Jean-Christophe Monard pour Mageia, quelle est la politique de Mageia par rapport donc à cette séparation logiciel libre ou cette information?
Alors bon, fondamentalement, tous ces paquets de logiciels sont séparés sur différentes étagères, pour prendre un terme commun. Alors il y a des étagères pour les logiciels libres, des étagères pour les logiciels qui ne sont pas libres, et là on prévient au moment de l'installation. Alors c'est vrai qu'au début j'étais très puriste, je ne les mettais pas, mais pour le grand public, j'ai vite compris qu'effectivement on peut les mettre comme étape intermédiaire. Bon, moi je ne les mets pas pour moi. Et il y a aussi, on va dire, une étagère pour les logiciels qui sont gratuits ou libres, mais qui posent des problèmes dans certains pays, parce que là aussi les problèmes de brevets logiciels, par exemple, font que certains logiciels sont utilisables dans certains pays et pas dans d'autres. Donc, on a des miroirs, hein, qui en fait sont des espèces d'étagères ou tiroirs où on range tous ces paquets de logiciels. Et à l'installation, bon, il y a un avertissement. Est-ce que vous voulez installer ces logiciels non libres aussi? Mais bon, c'est vrai que c'est un peu discret et c'est surtout pour des installateurs avertis. Je dirais quelqu'un du grand public, bah, il va faire OK, il les aura. Mais parce qu'on sait bien que pour les débutants, bah, c'est nécessaire. Voilà.
D'accord. Alors, cette partie va se terminer. Je vais vous laisser chacun et chacune une minute si vous avez quelque chose à ajouter. Donc, bah, Jean-Christophe, comme tu avais la parole, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur ce sujet des distributions GNU Linux ?
Eh ben, je trouve excellent qu'il y ait beaucoup de distributions GNU Linux. Et bon, là, parce qu'on n'a pas peur d'aborder des sujets qui fâchent, quand le fondateur de Ubuntu a dit publiquement qu'il voulait qu'on remplace Linux par Ubuntu, c'est vrai que ça m'a beaucoup énervé. Et c'est pour ça aussi que je n'utilise pas Ubuntu, même si c'est une distribution qui est tout à fait techniquement au point. Ça, effectivement, sa facilité d'utilisation est très bonne. Donc, utiliser des logiciels libres, ben, c'est participer à un monde de liberté et d'entraide. Et c'est ça le plus important. Et Jaya est une distribution communautaire, associative, qui, quelque part, procède de la liberté du côté non marchand de Debian, mais aussi avec une facilité d'utilisation très grand public que j'apprécie tous les jours.
Ben merci Jean-Christophe. Alors Olivier, pareil, Olivier Fraisse, en moins d'une minute.
Ouais, je ne me souviens pas de cette parole de Mark Shuttleworth sur Linux qui devrait être remplacée par Ubuntu, mais je ferai des recherches. Apparemment Nico non plus ne s'en souvient pas.
Shuttleworth qui est le
fondateur
de
Canonical qui sponsorise Ubuntu et qui est donc le créateur d'Ubuntu en fait. Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que n'hésitez pas à tester. J'invite toutes les personnes qui souhaitent avoir un peu plus de liberté sur leur ordinateur, avoir moins de virus, voire pas de virus du tout. Hein, c'est un débat qu'on peut avoir, mais à essayer Ubuntu ou Debian ou Fedora ou Magaya ou autre. Hein, mais faut tester.
Voilà. Nicolas Dandrimont pour Debian.
Oui, je pense qu'effectivement, les tester, c'est les adopter. Surtout, rapprochez-vous des structures locales, de vos groupes d'utilisateurs, de logiciels libres locaux, que ce soit à Paris, Paris Nux, ou en région, ou ailleurs dans le monde. Parce que le point clé du logiciel libre, c'est la communauté. Et sans que ce soit les distributions ou le reste de la communauté du logiciel libre, c'est vraiment les gens qui constituent ça qui sont la clé, quoi.
Et ces groupes d'utilisateurs, l'annuaire, vous le trouvez sur le site de l'agenda du libre. Charlotte Boulanger, pour conclure également.
Bah un petit mot, si jamais vous êtes séduit par l'orthodoxie de, c'est ça qu'on a dit, de la Free Software Foundation, la fondation pour le logiciel libre, ils ont une page qui liste les distributions agréées par la Free Software Foundation. Donc vous pouvez aller faire un tour et en essayer une si vous avez un cœur de libriste pur.
Bon,
aucune de nos distributions dont on a parlé n'est présente sur cette page-là.
Alors, comme l'émission est très bien préparée, cette page de référence est déjà sur le site de l'April.
C'est génial.
Il y a les deux pages, en fait. Il y a la page qui cite les distributions reconnues comme 100% logiciel libre par la Fondation pour le logiciel libre. Donc, d'où la principale est sans doute la distribution qui s'appelle Triskel. Alors, ça me fait penser qu'il y a une société qui s'appelle Minifree, qui, je crois, est basée en Angleterre, qui vend des laptops, des ordinateurs portables préinstallés avec Triskel. Et la deuxième page qui est citée, c'est pourquoi certaines distributions ne sont pas référencées comme distribution 100% logiciel libre par la Fondation pour le logiciel libre. Donc, vous verrez pourquoi Debian, mais tout à l'heure, Nicolas Dandrimont l'a expliqué. C'est la séparation effectivement du paquet, on va dire, libre et non libre. Évidemment, il y a beaucoup d'autres distributions dont on aurait pu parler. Il y a aussi d'autres familles de systèmes d'exploitation, notamment nos amis de BSD, hein, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD. Voilà, c'était une première introduction sur les distributions GNU Linux. Petite pause musicale, elle est vraiment courte. C'est Under the Sky of Jah, l'album c'est Exorcist de Style par notre ami Rico da Alvarez.
Toutes nos émissions en libre écoute, cause-commune.fm. Cause commune, cause-commune.fm.
Eh bien, vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Maintenant, nous allons faire une deuxième chronique et ça sera la première chronique de cette personne, donc en l'occurrence de Véronique Bonnet, qui est professeure de philosophie, qui est également membre du conseil d'administration de l'April. Donc la chronique, nous l'avons enregistrée il y a quelques jours et pour cette première chronique, Véronique Bonnet va nous commenter deux citations de Richard Stallman. La chronique durer 14 ou 15 minutes et on se retrouve juste après.
Eh bien aujourd'hui je suis avec Véronique Bonnet donc pour sa première chronique intitulée Partager est bon. Alors première question déjà Véronique, peux-tu te présenter ?
Oui, alors je suis initialement professeure de philosophie. La philosophie est mon approche qui est un peu particulière de la philosophie gnou. Ça n'est pas pour rien que Richard Stallman parle de philosophie gnou, puisqu'il dit d'entrée que son projet est idéaliste, que c'est un idéalisme pragmatique. Et tel va être l'objet de ma chronique d'aujourd'hui.
Et donc, par ailleurs, tu es aussi vice-présidente de l'April, dans le cadre de tes multiples activités sans aucun doute. Et donc, comme tu viens de le dire, ta chronique d'aujourd'hui, qui est la première, donc le sujet c'est idéalisme pragmatique, et tu enchaîneras sur pourquoi le logiciel doit être libre. Oui. Alors, je te passe la parole pour commencer sur cette chronique.
Alors, idéalisme pragmatique, peut-être est-il besoin de rappeler que, par principe, il y a un moment où Richard Stallman, alors que ce soit à cause d'une impossibilité de réparer une imprimante, que ce soit à cause de la vente par le MIT du travail qui est fait par tout un labo, à Symbolix, décide à ce moment-là, par principe, d'arrêter de se situer dans la logique d'un logiciel propriétaire. Et il le dit, je cite, « Idéalisme pragmatique, c'est un but idéaliste qui motive mon travail pour le logiciel libre, propager la liberté et la coopération. » Et donc il me semble tout à fait important de commencer ces chroniques par ce petit texte-là, parce qu'on pourrait penser que le logiciel libre, c'est seulement une affaire d'écriture de code. Or, ça va bien au-delà. Voilà ce qu'écrit Richard Stallman. « Je veux encourager la définition des logiciels libres et le remplacement des logiciels privateurs qui interdisent la coopération et rendre ainsi notre société meilleure. » Autrement dit, ça n'est pas une affaire de pure technicité qui tiendrait avec une forme affective à ce qui a été réalisé. Ça n'est pas une affaire simplement de cohérence, de terminer ce qu'on a commencé. L'idée est morale, idéalisme, c'est-à-dire qu'on essaie de se représenter ce que serait une société fraternelle, ce que serait qu'une société dans laquelle il y aurait en effet une diffusion. Et ce terme d'idéalisme pragmatique dit à la fois que, bien sûr, on ne transigera pas sur les principes, mais qu'en même temps, il faut se donner les moyens. Et c'est vrai que l'appel au hacker qui est fait dans le projet GNU essaie d'avancer en matière d'écriture du code avec toujours à la clé une intransigeance extrêmement forte parce que le logiciel doit être libre. Et très vite, il y a, de la part de Richard Stallman, l'écriture argumentée de pourquoi le logiciel doit être libre. Alors, simplement sur idéalisme pragmatique, j'ajouterais qu'il y a bien dans l'idéal du free software quelque chose qui relève du sens moral. Il parle assez souvent du sens moral du programmeur, de deux choses l'une. Soit le programmeur veut simplement être riche, soit le programmeur veut, d'une façon affective, développer sa chose, son code, en le gardant pour lui, soit il y a quelque chose qui va au-delà et qui s'appelle la fraternité.
Alors ce texte dont tu parles, Idéalisme pragmatique, on le trouve sur le site donc, du projet GNU, oui. GNU.org. Mm-hmm. La référence sera aussi sur le site de l'April, oui. Dans la page consacrée à l'émission. Donc ce texte qui date d'une vingtaine d'années de mémoire, je pense.
Oui, qui date du début, parce que dès le début du projet GNU, il y a cette teneur d'intransigeance idéaliste qui, bien sûr, va déboucher sur la tentative, alors au début il essaie de maintenir l'ISP indépendamment de cette cession à Symbolix. Ensuite, il s'aperçoit qu'il ne pourra pas le faire, et c'est là qu'il fédère des programmeurs ayant comme lui un sens moral, c'est-à-dire partageant cette visée d'une société qui sera meilleure.
Et le projet GNU, donc, c'est un projet fondateur pour le mouvement du logiciel libre, d'ailleurs lancé par Richard Stallman. Alors l'ISP, Symbolix, les détails seront retrouvés sur le site de GNU.org dans l'article
Idéalisme pragmatique. Oui.
Donc ça, c'est un texte fondateur. Parmi l'ensemble d'ailleurs des textes importants, ça me permet de préciser que les sites de GNU.org est traduit en français principalement par le groupe de travail Traduction de la philosophie GNU, de l'April, ce qui permet de mettre à disposition ces textes en français. Alors, cet idéalisme pragmatique implique que, comme tu le dis tout à l'heure, le logiciel doit être libre. Oui. Est-ce que tu peux détailler cette partie, s'il te plaît ?
Alors, il y a bien dans le texte intitulé ainsi, et dont les références seront également sur le site de l'April, l'idée que si dans notre vie quotidienne, on avait pour préparer un repas pour ses amis, on avait à se plier à des licences qui imposeraient de se référer à telle manière de procéder de tel cuisinier. On ne pourrait pas déroger à la recette, on ne pourrait pas ôter du sel, en ajouter. Vous avez d'une façon très pragmatique l'idée que les mathématiques ne sont pas, elles, sous copyright. Il n'y a aucune raison que l'informatique se trouve sous copyright, que la cuisine se trouve sous copyright. Souvent, il y a deux arguments en faveur du logiciel propriétaire. L'argument affectif, l'argument économique, qui bloque complètement les choses, sans qu'on voit à quel point ceci verrouille la société et notamment porte atteinte à la liberté, à l'égalité et à la fraternité des humains. Et donc, dès le tout début de ce texte, qui s'appelle « Pourquoi le logiciel doit être libre ?», vous avez imaginé ce que ce serait si les recettes de cuisine étaient logées à la même enseigne que les logiciels. Comment modifier cette recette ? Et là, si on ne peut pas le faire, si on ne peut même pas ôter le sel, il va y avoir des procédures infinies pour joindre l'auteur de ce qui est sous copyright. Il n'y aura pas le temps de modifier par des formes très prosaïques et très quotidiennes. Et là, je crois que c'est la marque du discours de Richard Stallman. On arrive à voir l'absurdité de ce que serait une société totalement partitionnée par des contraintes qui empêcherait donc de propager, de diffuser dans une fraternité, une inventivité qui, dans le registre humain, relève de la rencontre de plusieurs.
Alors, tu parles de fraternité, d'ailleurs, ça me permet de rappeler qu'en France, quand Richard Stallman fait une conférence, il commence très souvent par l'expression « Je peux définir le logiciel libre en trois mots, liberté, égalité, fraternité ». Et de temps en temps, il rajoute un commentaire par rapport au pouvoir politique présent en France qui n'est pas dans cet état d'esprit-là, quels que soient les pouvoirs politiques. Mais en tout cas, voilà, liberté, égalité, fraternité.
Alors, sur la liberté, il ne s'agit pas du tout d'une liberté telle que l'entendrait, par exemple, même ce qu'on appelle le mouvement open source, avec l'idée que s'il y a beaucoup d'utilisateurs, si on permet l'accès au code source, il y aura beaucoup de rapports de bugs, et donc ça marchera mieux, ça permettra de trouver des solutions pour réparer les bugs, et donc il y aura une grande puissance du programme. Il s'agit d'une liberté aussi bien ce qui m'oblige moi, c'est-à-dire une autonomie. Quand je fais quelque chose, j'y réfléchis à deux fois avant de voir si par là la société va se trouver dégradée, améliorée. Ça m'engage dans mon rapport aux autres, dans mon rapport au monde. Et donc il me semble qu'il est très important de bien regarder, j'en reviens à cet article « Pourquoi le logiciel doit être libre ?» les arguments qui font que très souvent, quand on écrit du code, on ne pense pas immédiatement aux effets sur la société. Bon, qu'est-ce qui se passe, par exemple, là je cite Richard Stallman, lorsqu'on écrit du code propriétaire, lorsqu'on réalise un logiciel propriétaire, qu'on verrouille son usage, alors ça ressemble à cette chose-là, l'argument affectif ressemble à ceci, j'ai mis ma sueur, mon cœur, mon âme dans ce programme, il vient de moi, c'est le mien. Autrement dit, liberté, ça n'est pas simplement je ne suis pas contraint à quelque chose, je fais en sorte de réaliser ce qui est mien et je me moque du reste. Il me semble que la liberté, c'est ce à quoi je m'engage lorsque, humain parmi les humains, effectivement, je mets de ma sueur, de mon cœur et de mon âme dans quelque chose. Est-ce que c'est pour le garder pour moi ? Est-ce que c'est misère affective, auto-centrée, simplement pour empêcher que les autres l'utilisent, hein ? Alors, il y a un autre argument dans pourquoi le logiciel doit être libre, c'est l'argument économique. Hein, c'est « je veux devenir riche, et si vous ne me permettez pas de devenir riche en programmant, eh bien, je ne programmerai pas. » Là, on est dans une liberté qui ferait également contresens, ce serait celle du libéralisme, c'est-à-dire absence d'entrave, c'est-à-dire produisez, enrichissez-vous, gardez pour vous ce que vous avez produit et que le reste du monde s'écroule ou soit privé de ce que vous faites. Il me semble que dans la philosophie GNU est affirmée une forme de primat de l'humain dans toutes ses dimensions, et c'est vrai que l'humain est peu de choses seul, et donc il me semble que ce à quoi tu faisais référence, Frédéric, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, essaie de penser l'humain parmi les humains. Et ça me paraît, comme dans ma pratique philosophique, quelque chose de très essentiel.
Ben écoutez, je trouve que c'est très clair et très intéressant. Est-ce que tu veux ajouter un mot de conclusion ?
Alors, le mot de conclusion que je dirais, c'est que le terme de philosophie GNU peut paraître intimidant, peut paraître abstrait, mais moi, chaque fois que je regarde, d'où cette émission qui s'appelle « Partager est bon », hein, « Partager est bon », c'est une phrase que dit assez souvent Richard Stallman. Moi, ce qui m'intéresse dans la philosophie GNU, c'est de rencontrer beaucoup de situations du quotidien, beaucoup d'analogies, hein, avec utiliser une chaise, pourquoi est-ce que c'est pas pareil d'utiliser un logiciel, d'utiliser une chaise, de manger un sandwich, quelle réécriture ça permet, quelle diffusion ça permet. Il me semble que la philosophie GNU, c'est aussi une philosophie du quotidien.
Ça me paraît une très bonne conclusion. Si je me souviens bien, quand Richard explique que partager c'est bon, il ajoute assez souvent que attaquer le partage, c'est attaquer la société. En tout cas, merci donc Véronique Bonnet, professeure de philosophie, vice-présidente de l'APRI, pour cette première chronique intitulée « Partager un bon ». Et on se retrouve bientôt. Merci Véronique.
À bientôt.
Cause commune. Retour sur 93.1 à 21h et retrouvez nos programmes sur cause-commune.fr.